Si des visiteurs viennent en Belgique, il y a de fortes chances qu'ils aient envie de visiter Bruges, la fameuse Venise du Nord. Alors c'est vrai que c'est une super belle ville, mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment elle avait réussi à se développer de la sorte? Eh bien nous, on a mené notre petite enquête, et il semblerait que ce soit dû en partie à une association de villes marchandes qui s'appelle la Hanse. Alors du coup...
On s'est réunis autour d'un verre,
on a parlé d'arrêt d'histoire...
Et on en a fait un podcast...
Bienvenue sur Godet la Mousse.
Bonjour tout le monde et bienvenue sur Godet à Mousse, le podcast qui vous parle d'art et d'histoire autour d'une bonne bière. Alors, pour vous parler ce soir, en ma compagnie, j'ai Arne.
Salut !
Et Nicolas.
Bonsoir.
Alors Nicolas, on est très content de te recevoir, c'est une toute première fois derrière notre micro.
Merci Mathias.
Vas-y, tu vas.
Non. Je suis très heureux d'être là ce soir aussi.
Très ému.
Très ému, oui, très...
La petite larme à l'œil.
Oui, c'est l'émotion qui me subjugue là, c'est...
Ah mais nous c'est toujours la même émotion,
toujours.
Après tellement de podcasts.
Le micro est toujours aussi impressionnant.
Ah mais ça il est gros, hein. Et il est beau, il est gros, il est beau mon beau micro. Donc oui, bah, on est très content d'être là pour pouvoir vous parler de Bruges, quand même une ville magnifique. Et pour vous parler de cette belle ville, nous avons donc choisi une bière très sympathique, n'est-ce pas Arne?
Mais oui, on a pris la plus brugeoise de toutes les bières brugeoises, la Bruxzot.
Alors avant de vous en parler, je pense qu'on va pouvoir les ouvrir.
Yes!
Allez, je vous en prie.
Ça pétille magnifiquement.
Petit bruit.
J'ai envie de vous dire santé,
santé,
les amis.
Santé.
À l'amitié, à l'histoire. Et à Bruges.
À Bruges.
Et à la bière.
Mm-hmm.
Alors précisons que c'est la blonde que nous sommes en train de boire, qui est donc une bière de la brasserie de Halvemann.
La demi-lune en français.
La demi-lune, qui produit également la Bruxzot double, qui est donc la variante brune de ce que nous venons de boire. Alors qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la bière, les amis?
Eh bien écoute, Mathias, il y a 4 sortes de malt et 2 types de houblons différents dans cette bière. C'est vraiment une bière fruitée, rafraîchissante. On sent bien un peu le malt, c'est un peu citronné comme ça, c'est vraiment pas mal.
Oui. Okay, ouais, des petites touches d'agrumes.
Des petites touches d'agrumes, effectivement. C'est agréable.
Elle est assez légère, mais on sent qu'elle a du caractère et un petit goût intéressant. Je trouve ça très chouette. Elle n'est pas très forte, hein. Je pense qu'elle fait 6 degrés.
Ouais.
6, on dit pourcent ou degrés?
Pourcent, enfin, pourcent. Sur les bouteilles.
Pourcent, ouais.
Est-ce que vous connaissez la différence entre les pourcents et les degrés?
Aucune idée. Tu sais, on parle de bière, mais on n'y connaît rien.
On n'y connaît rien du tout.
Donc,
mais comme on a dit, on peut au moins vous dire si on les aime ou si on ne les aime pas. Et dans ce cas-ci, j'ai envie de dire qu'on l'apprécie.
On l'apprécie. C'est... Et surtout, la Bruxzot a une particularité, Mathias.
Ah oui, alors j'aime beaucoup cette petite histoire. Donc en fait, pendant tout un temps, Bruges a connu de nombreuses brasseries. Maintenant, il n'y a plus que la Bruxzot qui est produite dans le centre de Bruges. Mais en fait, l'usine d'embouteillage est assez éloignée. Donc le patron de la brasserie a eu l'idée de créer un gigantesque pipeline qui relie la brasserie à l'usine d'embouteillage. Donc il fait environ 3 km en dessous de la ville. On peut parler de biéroduc.
Un biéroduc, hein.
Ça évitait d'avoir tous ces camions qui roulaient non-stop et qui abîmaient les pavés de cette belle ville.
Finalement, la transition écologique, c'est tellement beau.
C'est magnifique. Mais
on peut boire de la bière.
Voilà.
Mais est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont tenté de percer
le biéroduc
Mais je pense que le biéroduc passe sous l'eau.
Ouais. Refroidir en même temps la bière.
Voilà, c'est ça, ça refroidit en même temps. Je sais pas, hein, je me trompe peut-être complètement. Mais je pense qu'il n'est pas tellement accessible au public. Et donc, on ne peut pas se retrouver comme face à tous ces pipelines où qu'on éclate.
Au moins, il y a peu de risques d'explosion.
Il y a peu de risques d'explosion. Au pire, petite contamination à la bière, c'est jamais très grave. Les poissons aiment bon bien.
Mais on peut se dire il y a que en Belgique où on peut créer un truc pareil. Mais en fait, en Allemagne, ils l'ont déjà fait pour un stade où la bière est amenée par aussi un gros pipeline. Et apparemment, pendant le festival des vieilles charrues en France, il y a aussi un gros pipeline qui emmène la bière. Mais là, on parle vraiment d'un système pérenne.
Tout permanent, exactement.
C'est quand même extraordinaire de se dire qu'on a inventé un énorme biéroduc. Mais peut-être que quand tu me parlais de la particularité de la bière, tu voulais plutôt me parler du nom de la bière, Arne.
Oh non, pas du tout.
Pas du tout. Nico?
Eh bien, le nom de la bière, il vient finalement d'une légende, ou de l'histoire de Bruges. Donc il faut savoir que Bruges, fière ville flamande, est entrée en conflit régulièrement au cours du 14e et surtout du 15e siècle avec l'autorité tutelle qui à l'époque était duc de Bourgogne. Après la mort de la dernière duchesse de Bourgogne, que vous connaissez bien, Marie de Bourgogne.
Voilà, on fait un petit rappel, n'oubliez pas d'écouter le podcast sur Marie de Bourgogne, les amis.
Et de boire une duchesse de Bourgogne.
Et de boire une duchesse de Bourgogne, tout à fait.
Donc après la mort accidentelle de cette duchesse très jeune, son mari devient régent, en attendant que leur fils puisse devenir souverain des Pays-Bas bourguignons. Donc Maximilien de Habsbourg, qui viendra plus tard empereur, devient donc le souverain des Pays-Bas, anciennement Pays-Bas bourguignons, mais qui va être bientôt intégré à tout l'empire qu'on connaît de Charles Quint et des Habsbourg d'Espagne, va se retrouver face à des villes flamandes qui, après les guerres contre le roi de France, ont des velléités d'indépendance. Velléités qu'elles ont déjà pu assouvir, vous vous souvenez, grâce à Marie de Bourgogne qui leur a donné un certain nombre de chartes. Sauf que Bruges en voulait plus. Et donc a fini par se rebeller, a pendu haut et court le représentant de Maximilien dans la ville. Et donc Maximilien, forcément pas content, a retiré toute une série de privilèges à la ville, dont notamment le fait d'organiser des foires et des marchés. Pour une ville marchande, on va me dire, c'est un peu ballot de ne plus pouvoir organiser une foire annuelle et quoi que ce soit. Donc, les habitants, les brugeois, se croyant un peu finaux, proposent au Maximilien de réorganiser une grande fête en son honneur. Et notamment pour pouvoir financer un asile d'aliénés. Et là, Maximilien aurait eu ce mot, disant « Mais vous voulez un asile d'aliénés, fermez donc les portes et vous en aurez un. » D'où le terme « Bruxezot », le fou de Bruges, qui est encore utilisé aujourd'hui pour dessiner parfois les brugeois.
Eh bien écoute, merci pour cette petite introduction historique, Nico. Ça va nous permettre de rentrer un tout petit peu plus dans notre thématique.
Dans Bruges.
Dans Bruges. Comment ça, dans Bruges? Une Bruges.
Une Bruges, tu veux dire.
Une Bruges, vu que c'est anglais, pardon.
Un très bon film avec Colin Farrell, doit-on le rappeler?
Ouais. Ne regardez pas la version française.
Ah oui, non, ça jamais.
C'est inaudible.
Ne regardez jamais les versions françaises.
Ne regardez jamais les versions françaises.
Toujours les versions originales.
Exactement, bravo. Ouais,
merci. Donc notre thématique, je le rappelle, pour les auditeurs qui auraient été inattentifs pendant ces 10 minutes.
Qu'on buvait une Bruxezot.
Voilà, donc nous allons parler de Bruges, nous allons parler de la Hanse, et plus spécifiquement du comptoir de Bruges pour la Hanse, à savoir le cantor de Bruges. Donc on va d'abord vous faire un petit historique de la Hanse, de son développement, suivi d'un petit historique sur le développement de la ville de Bruges, pour ensuite arriver au mix ultime entre la Hanse et Bruges, et vous parler un petit peu de tout le développement qui va avoir lieu pendant plusieurs siècles. Alors, pour vous parler un petit peu des prémices de la Hanse, je pense que Nicolas a quelque chose d'intéressant à vous raconter.
Oui, donc voilà. Il faut savoir que la Hanse, finalement, relie deux mers assez importantes de l'Europe. C'est la mer du Nord et la mer Baltique. Ces deux mers, finalement, ont pas mal de différences. Alors, on a une mer du Nord qui est assez ouverte, avec des espaces assez grands. D'ailleurs, un exemple, c'est que les Anglais qui ont posséder Calais en cours de leur histoire, ainsi que finalement l'Angleterre, n'ont jamais réussi à totalement contrôler cette mer. A l'inverse, la mer Baltique est une mer plutôt fermée, avec une largeur assez peu importante, avec une navigation qui se faisait surtout le long des côtes, et donc du coup de port en port et de terre en terre, donne un peu une vision d'espace fermé, mais qui est compensée par le fait que pas mal de longs fleuves, assez importants d'Europe centrale, débouchent sur la mer Baltique, et grâce à ces fleuves, on peut remonter assez loin dans les terres. Et une série de ces routes, finalement, qui, dès le premier millénaire de notre ère, vont relier des zones comme la partie la plus à l'ouest de la Russie et Constantinople, notamment pour le commerce de fourrure. Si bien que, donc, déjà un trafic assez important sur ces zones. Et dès le 7e siècle, on a des contacts assez réguliers, finalement, entre l'Angleterre et la zone baltique, par l'intermédiaire des Scandinaves. Alors, les Scandinaves, ils sont bien connus grâce aux Vikings. Et donc, on connaît beaucoup dans l'historiographie, finalement, les raids vikings, les attaques et compagnie. Mais il faut savoir que c'est aussi une population commerçante et qui a finalement fait le lien entre ces deux mondes qui, au départ, n'avaient peu de connexion. Les liens continuent à se développer. Les voyageurs anglais commencent à aller vers ces zones à l'est, qu'ils connaissaient assez mal. Et donc, on a certains textes qui sont assez marrants, où on voit les Anglais s'interroger face aux mœurs bizarres de Slaves de cette zone-là. Par exemple, le fait que tous les Slaves, pauvres ou riches, boivent de l'hydromel, pour un anglais c'est une boisson de riche, et que les riches buvaient du lait de jument, qui pour un anglais est extrêmement bizarre, même encore aujourd'hui, parler de manger quelque chose d'un cheval à un anglais, il vous regardera comme un extraterrestre. Finalement, les contacts vont continuer à s'accentuer et vont progressivement déboucher à cette mise en réseau pour lequel la Hanse va occuper une place importante à partir début du second millénaire de notre ère.
Comme, alors c'est vrai qu'on parle tout le temps de la Méditerranée. Je ne sais pas, dans vos cours d'histoire, ça a souvent un rayonnement assez, assez extraordinaire, mais en fait, c'est vrai qu'il se passe la même chose un petit peu dans nos régions et le long des fleuves allemands. Donc on va vraiment avoir... Donc la Hanse, il faut savoir ce que c'est. La Hanse est un ensemble de commerçants qui vont se mettre en réseau, finalement. Ce sont des villes allemandes qui vont commencer à se réseauter. On parle toujours de deux grandes villes, à savoir Lübeck et Hambourg. Donc ça, ce sont vraiment les deux villes qui vont s'assembler. Il y a un premier rapprochement et à la moitié du XIIIe siècle, en 1241... Arrêtez-moi si je me trompe.
Tu ne te trompes pas.
Donc les deux vont signer un accord et à partir de ce moment-là, d'autres villes vont commencer à se rajouter à cet accord. Alors le but, c'est de se protéger parce qu'à ce moment-là, les princes allemands n'arrivaient plus à protéger les voies maritimes dans leur région. Et donc du coup, y avait des brigands, il y avait des pirates, il y avait beaucoup de pertes au niveau du transport. Et donc il va falloir se protéger. Et donc comment on se protège? Eh bien, toutes ces villes vont signer des accords. Elles vont aussi s'octroyer des avantages au niveau des taxes, Arne.
Ouais, mais en fait, parce que c'est aussi super intéressant de rappeler que les Hanse, il y en a eu des dizaines d'autres. Et la particularité de celle qu'on appelle la Hanse, c'est d'assurer justement, comme tu dis, ce monopole, c'est de faire en sorte de protéger ses intérêts. Et c'est pas juste une espèce de corporation de marchands, c'est vraiment une corporation de différentes villes marchandes qui se mettent ensemble et qui protègent leur commerce.
Il faut savoir que dans l'âge d'or de la Hanse, on va avoir environ 200 villes qui vont y être assimilées. Donc c'est quand même énorme. Et ce qui est très intéressant, c'est que bon, au tout début, elle va s'opposer, par exemple, aux commerçants de colonnes, qui, eux, sont très implantés en Champagne, ils vont être très présents sur les foires, mais finalement, ils vont finir par fusionner, et donc, ils vont s'ouvrir, alors, à ce moment-là, au marché beaucoup plus généraux.
Oui, donc, effectivement, les voies de terre ont fini par se connecter à ces voies de mer qu'occupait la Hanse, notamment par les grandes vallées fluviales, qui sont des axes de pénétration assez importants, assez majeurs pour atteindre la mer Baltique.
Ce qui est aussi hyper intéressant de voir, c'est un peu la structure de cette Hanse. Parce que comme je disais tantôt, comme tu le disais tantôt, c'est des villes qui se sont mises ensemble. Et c'est-à-dire que ces villes, elles vont décider, elles vont créer une assemblée qu'on appelle le Hansetag. J'espère que je prononce pas mal.
C'est impressionnant.
Écoute, voilà. donc c'est une assemblée qui va prendre des décisions. Mais ce qui est vraiment remarquable, c'est de voir que les villes, finalement, restent très indépendantes et peuvent un peu choisir elles-mêmes de la manière d'interpréter les décisions du Hansetag ou la manière d'appliquer les décisions que cette assemblée a prises. Donc voilà, c'est centralisé d'une part, mais avec vraiment une très très grande autonomie locale d'autre part.
Ce qui est super intéressant avec la Hanse, c'est qu'à la base, ce sont des villes, donc il n'y a pas de... Pour la Hanse, le but, ce n'est pas du tout la conquête de territoire. Hein, on est d'accord là-dessus, ce sont vraiment des marchands, mais ce sont des marchands qui vont réussir très vite à faire pression sur certaines villes. Hein, donc leur arme privilégiée, c'est le blocus. Il y a toute une série d'étapes. D'abord, la petite négociation, puis ensuite, on fait un embargo, puis ensuite, il y a un blocus sur une ville.
Et si je peux déjà m'avancer, ça a été, pour faire... monter un peu le suspense, l'embargo a été utilisé plusieurs fois, notamment à Bruges.
Et ça a marché à chaque fois.
Et ça a marché à tous les coups.
De moins en moins bien, au fur et à mesure, mais ça a chaque fois bien marché. Donc, généralement, ils ont des privilèges, ils perdent leurs privilèges, hop, ils font un petit embargo, et puis ensuite, on signe selon leurs conditions. Ça marchait plutôt pas mal à l'époque, donc ils ont vraiment un poids hyper important pour le commerce.
Ouais, pas seulement commercial, c'est aussi une puissance politique finalement, cette Hanse.
En sachant qu'on a une espèce d'unité, mais en même temps, chaque ville conserve son indépendance.
Une forme d'entente pour le monopole finalement.
Ah, ça c'est clair, que le monopole, ouais. C'est clairement ce qui est visé, c'est eux qui vont contrôler tous les échanges pendant quoi, 3 siècles?
Oui.
Ouais, 3-4 siècles, hein. C'est quand même extraordinaire. Et donc, on le dit, au début, ce sont des marchands, ils vont faire les embargos, mais ils vont réussir à un moment donné, lorsqu'il y aura des conflits avec le roi du Danemark, ils vont réussir à mettre en place une troupe armée qui va réussir justement à contrecarrer les plans du roi du Danemark. Et du coup, le roi du Danemark sera chaque fois élu sous l'accord de la Hanse. Enfin, je ne sais plus trop les conditions, mais donc ça montre qu'elle va gagner un privilège et un pouvoir quand même très très important.
Sinon, pour l'anecdote de ce monopole finalement assez important de la Hanse sur la Baltique, c'est qu'au moment de l'émergence de la cartographie au XIIIe, XIVe siècle, autant la Méditerranée et la mer du Nord sont très bien connues par les cartographes essentiellement espagnols, italiens, autant la mer Baltique sera très peu connue. Parce que finalement, Bruges jouait tellement bien son rôle de verrou sur la mer du Nord et la mer Baltique qu'aucun marchand italien ou espagnol ne pouvait accéder à la mer Baltique et au territoire de la Hanse. Et donc, ils n'avaient que des informations de seconde main pour faire leurs cartes, parce que finalement, les commerçants de la Hanse, hanséatique, eux n'avaient pas besoin de cartes, parce qu'ils, surtout, hein, comme je l'avais dit tout à l'heure, une navigation entre ports et le long des côtes, au contraire des navigateurs l'Atlantique et la Méditerranée, qui a besoin de certain nombre de cartes. Donc, il faudra attendre assez longtemps, 15e siècle, pour une première vraie bonne carte de la région.
Tu parlais de verrou, mais c'est parce que Bruges était, on reviendra un petit peu plus tard là-dessus, mais une ville étape, c'est-à-dire qu'on était obligé de s'arrêter à Bruges, de décharger parfois toute sa cargaison sur place avant de pouvoir continuer. Donc c'est vraiment une ville qui va prendre son essor très très rapidement. Bon, alors je vais pas trop m'avancer, mais au niveau des moyens de locomotion, on peut dire ça, non ?
De navigation. De transport.
Voilà, on va passer d'un bateau assez effilé qui s'appelle la couge. Me demandez pas de savoir comment ça se prononce. On va évoluer vers la ourque, qui est en fait une embarcation qui est complètement plate et qui est capable de transporter 200 à 300 tonnes. Donc c'est vraiment du gros tonnage qui va déambuler dans les fleuves de la région. J'en perds mes synonymes.
Je mettrai une photo sur notre Facebook.
D'une ourque. On verra bien comment ça se prononce. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, on parlait des blocus, des soldats, tout ça. Ils arrivent même à parfois changer le droit commun, qui va parfois même pas s'appliquer aux marchands. Donc, notamment le cas du droit d'épave. Donc, normalement, si on s'échoue près du littoral, eh bien, finalement, le contenu de la cargaison revient aux dirigeants qui gèrent le littoral. Alors que là, spécialement, pour les marchands de la Hanse, ils vont réussir à faire en sorte que si jamais ils s'échouent sur le littoral, eh bien la cargaison continue à appartenir à la Hanse. Donc c'est vraiment une modification même du droit qui est présent sur les terres, et ça c'est quand même très très important. Alors cette Hanse connaît un développement exceptionnel, mais en même temps, Bruges va connaître elle aussi un développement exceptionnel. C'est l'occasion de faire un tout petit historique sur le développement de la ville. Arne.
Merci Mathias. Alors Bruges, c'est une ville qui naît plus ou moins en 200 de notre ère. On connaît déjà un emplacement gallo-romain à cette époque-là. Et Bruges, c'est directement une ville qui a accès à la mer. Parce que, vous le savez peut-être ou pas, mais le nord de nos contrées, que ce soit les Pays-Bas ou la Belgique, le littoral a changé sans arrêt. Mais Bruges, donc, a toujours eu cet accès à la mer, et d'ailleurs en témoigne une vieille épave qu'on a retrouvée je ne sais plus quand, mais qui était assez vieille, qui datait donc du temps des Gallo-Romains, une vieille épave qu'on a encore retrouvée, et qui prouve donc cet accès très tôt à la mer. Après viennent les Germains, nos amis les Germains, hein, qui viennent de l'Est, et qui ravagent complètement l'endroit. Et au fait, Bruges va disparaître du 4e au 8e siècle. On va vraiment perdre toute trace historique ou même archéologique de la ville. Et cette ville, elle revient un peu vers le 9e siècle. Hein. Elle réapparaît pour probablement se défendre contre les Normands. C'est d'ailleurs vers ce moment-là, au 9e siècle, qu'on a un peu les premières mentions du nom Bruges, ou qu'on a de la monnaie qui est frappée. Mais ce qui va vraiment commencer l'essor de Bruges, c'est le 10e siècle, c'est l'an 1000, avec un lointain ancêtre, très certainement mon homonyme Arnulf Ier, qui est donc un comte de Flandre, qui va lui commencer à construire un château. C'est en plus un lointain descendant des Carolingiens, donc il va construire une église qui va ressembler comme deux gouttes d'eau à celle d'Aix-la-Chapelle. Et à ce moment-là commence également un peu le commerce. Mais ce qui va vraiment changer les choses pour Bruges, c'est ce qu'on appelle, en Belgique, on connaît ça très bien, en France probablement moins, si vous nous écoutez outre Quiévrain, c'est le Zwin. Et le Zwin, c'est un bras de mer. Et ce bras de mer, il va naître en 1134, lors d'une grande tempête qui va complètement amener de l'eau de mer vers le territoire de Bruges. Alors cette tempête, elle a probablement tué beaucoup de gens, mais en gros, le commerce et la finance, c'est la même chose à l'époque que ça l'est aujourd'hui, c'est-à-dire on profite des bons cataclysmes pour faire renaître les choses de ses cendres et améliorer le commerce. Et donc on se dit, tiens, cette grande tempête, elle a ouvert un accès direct de Bruges à la mer, et ça va permettre aux navires de plus gros tonnage de venir directement, ou plus ou moins directement, vers la ville de Bruges. Alors, l'accès, c'est le Zwin, et on va créer à côté, juste à côté de Zwin, une petite ville qui s'appelle Damme, qui en fait, ça signifie en gros barrage en néerlandais.
Il y a aussi l'écluse.
Voilà, et alors, à côté, il y a la ville de Sluis, en effet, qui, elle, signifie écluse. Et les Brugeois, en gros, ils sont très intelligents, ils monopolisent bien le commerce sur tout l'ensemble du Zwin. Parce que clairement, dans un premier temps, donc les bateaux de gros tonnage ont accès directement à la ville de Bruges. Mais après, bien sûr, parce qu'il faut savoir qu'avant le Zwin, en fait, c'était juste des canaux qui n'étaient accessibles que par marée haute. Et donc, la ville n'était accessible qu'à marée haute. Mais avec cette grande tempête de 1134, ça a vraiment donné un accès permanent à la ville. Et les Brugeois vont bien en profiter pour, en effet, avoir cette petite ville de Damme à côté où les navires peuvent s'amarrer. Et puis après, on transborde les marchandises, faire des plus petites embarcations qui ont, elles, accès directement au centre-ville. Mais donc pour donner juste une idée de ce Zwin qui est donc d'une importance capitale pour Bruges, ça permet vraiment à des navires de gros tonnage d'y aller dedans. Et d'ailleurs, les Français et les Anglais, en 1213, ont fait une petite bataille navale à l'intérieur du Zwin. Donc voilà, c'est vraiment pour dire, c'est un endroit qui est vraiment très très important.
Alors je vais vous spoiler la fin, évidemment. Hein, le Zwin va finir par être ensablé. Et actuellement, donc, c'est un polder.
Voilà.
Donc vous pouvez aller le visiter.
Et ça grandit d'ailleurs avec des travaux ces derniers temps. Donc voilà.
C'est juste, c'est une réserve naturelle.
Très belle.
Voilà, magnifique. On devrait d'ailleurs y aller en pèlerinage. Mais donc ce Zwin va finir par s'ensabler au fur et à mesure. Ça ne va pas trop arrêter le commerce à la base. Hein. Ça ne va pas trop déranger de changer les tonnages des bateaux au fur et à mesure. Mais à un moment donné, ça va vraiment être beaucoup trop encombrant. Mais donc, comme l'a dit Arne, hein, ce qui était très intéressant pour les Brugeois, c'est que l'entièreté du Zwin était considérée comme un avant-port. Donc vraiment, tout ce qui s'y passait, c'était considéré comme se passant à Bruges. Alors, le premier vrai commerce pour Bruges, il faut savoir que c'est tout ce qui concerne l'industrie drapière. Donc, toute la Flandre, hein, va vraiment connaître un développement drapier extraordinaire. Parfois, on parle même de pré-industrialisation. Et toute la laine provenait majoritairement de l'Angleterre. Et ça, c'était dû au fait que l'estuaire de la Tamise se trouvait juste en face de l'estuaire du Zwin. Donc en fait, c'était très court parce que sinon, ils pouvaient aussi aller chercher leur laine du côté de l'Espagne. Mais là, c'était assez long à ramener jusque-là. Et donc, on peut dire vraiment que du 9e au 12e, 13e siècle, il va vraiment avoir un très important trafic de laine qui va transiter de Londres jusque Bruges. Et après, Bruges, évidemment, va revendre toutes ces draperies qui étaient réputées dans toute l'Europe. Donc ouais. Ça, c'est très important à savoir.
Et donc, c'est des draperies hein, qui viennent de Gand, de Lille, d'Ypres, de Douai. Donc voilà, c'est la Flandre de l'époque. Hein, c'est pas la Flandre de nos jours, toute petite. On peut juste quand même préciser. Donc, comme tu le disais au début, c'est surtout de l'industrie drapière. Mais en fait, à partir du XIIIe siècle, les échanges, ils vont commencer à exploser véritablement pour Bruges. Des marchands étrangers vont venir directement s'installer à Bruges, y acheter leur tapisserie sur place. mais également revendre des produits que eux amènent. C'est aussi l'essor du commerce maritime, hein, le 13e siècle. On a des routes maritimes directes entre la Flandre et l'Italie. D'ailleurs, les premiers Génois à faire la route, c'est en 1277. Voilà, donc ensuite viennent les Vénitiens. Et le Zuin, c'est aussi un endroit sécurisé pour terminer le voyage, où on est clairement à l'abri. C'est un bras de mer. Donc voilà, ça offre vraiment une sécurité pour les marchands. Et Bruges permet toute la logistique. Ils ont des bâtiments fantastiques pour accueillir les marchands. Et bien sûr, les marchands allemands, ceux de la Hanse, vont venir s'y installer.
D'ailleurs, ces marchands allemands, on va les appeler les Osterling. Donc, sont vraiment les hommes de l'Est, les orientaux, parce que voilà, on considère que c'est le plus oriental qu'ils connaissent. Ça va être énorme. L'implantation des Allemands à Bruges, on va compter des centaines d'Allemands qui vont être présents en ville. D'ailleurs, ça va être un petit peu différent de ce qu'ils font généralement dans les autres comptoirs. Donc, généralement, dans un comptoir, il y a vraiment tout un espace qui est bien délimité par des murs, par une église, par des salles bien spécifiques. Alors qu'à Bruges, les marchands allemands sont mélangés à la population.
Ouais, et en fait, c'est pas seulement vrai pour les marchands allemands. Il y a tellement de marchands dans Bruges que ce serait énorme, très très difficile de faire des quartiers par nationalité de marchands. Ce serait un peu bizarre d'ailleurs. Et donc oui, on va vraiment voir cet énorme mélange. Et ça, c'est une particularité brugeoise. Les marchands ont le droit de louer, ou même d'acheter des maisons, ce qui n'est clairement pas le cas dans d'autres villes marchandes.
Parmi ces marchands, donc on vient de parler des Allemands, mais aussi des Italiens, les Génois qui sont très impliqués dans le commerce. Et pour l'anecdote, le fameux tableau Les époux Arnolfini de Jan van Eyck représente justement ces marchands génois qui sont venus s'établir à Bruges pour le commerce. Des marchands extrêmement riches et donc qui commandent aux meilleurs artistes de l'époque dont faisait partie Jan van Eyck et qui était une importante clientèle pour tous ces primitifs flamands et qui a concouru finalement au développement de cet art au XVe siècle dans les anciens Pays-Bas.
Alors, vu que là, on est déjà en train de vous parler de Bruges et de son importance dans le réseau de la Hanse, je pense qu'il est temps de passer à une deuxième bière. Alors, Arne, tu nous proposes une Brugge Triple.
Tout à fait, ou une triple de Bruges en français.
Merci.
Maintenant, il est vrai que les étiquettes sont en néerlandais.
Et puis, cette bière est flamande, j'essaye de parler en néerlandais.
Tout à fait.
C'est... Un peu en anglais aussi.
On va faire un podcast multilingue, oui. Mais en même temps, toutes les bières, un chouïa plus petite. Enfin bon, bref, les bières ne vivent que par l'export, parce que la consommation de bière est en train de baisser en Belgique.
Est-ce qu'il est temps de faire un disclaimer du style ne roulez pas, ne buvez pas en conduisant.
Notre savoir se déguste avec sagesse.
Voilà. C'est ça. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
Voilà. Donc au volant, écoutez notre podcast, mais ne buvez pas nos bières. La Bruges Triple, c'est une bière à 8,7%. Donc clairement, c'est un peu plus fort que la Bruges Zot. Et c'est une bière qui est brassée depuis 1987 à la brasserie de Goudenboom, donc l'arbre d'or ou l'arbre doré.
C'est une fête qui se fait tous les 5 ans à Bruges au cas.
Ok, il faudra que tu m'en dises plus sur cette fête.
Je t'en dirai plus quand je retrouverai mes notes.
Excellent. Alors malheureusement, comme toutes les brasseries qui se font racheter, voilà, enfin malheureusement, j'en sais rien en fait. Mais depuis 2004, Palm, la célèbre Palm, a acheté la brasserie de Goudenboom. Et c'est depuis ce moment-là, donc depuis 2004, que la bière que nous buvons ce soir a pris le nom de Bruges Triple. Donc voilà, je ne sais pas c'était quoi le nom avant. Mais bref. Alors, la recette de la Bruges Triple, elle est moyenâcheuse. Parce qu'à l'époque, hein, on n'utilisait pas spécialement du houblon pour brasser la bière, mais on épissait quand même on épissait ces bières. Et la recette historique à Bruges, c'était qu'on utilisait des épices qui étaient baptisées Gruut. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent Bruges, il y a une Gruuthuis à Bruges. Et pour rappeler ce côté épicé moyenâgeux, la bière, la Bruges, la Bruges Triple est une bière très très épicée. C'est pour ça qu'on va retrouver des arômes de banane, de cuperdon, de caramel, de chocolat, le tout teinté un peu fumé comme ça. Donc voilà, c'est une saveur puissante et c'est un peu aigre-doux. Vous m'en direz des nouvelles.
Eh bien, santé les amis.
Santé.
Santé.
C'est épicé, ouais.
Je ne retrouve pas le Cuberdon. Je tiens à le dire.
C'est, on n'est pas encore zytologue. Hein. Si quelqu'un chez dans les auditeurs de Godéamus veut nous payer une formation zytologie, appelez-nous. Ou laissez un message sur notre Facebook.
C'est caramel que tu avais dit comme arôme ?
Ouais, ouais, un peu caramel.
Mais j'ai l'impression de l'avoir senti.
Mmh. Un peu de banane aussi. Mmh.
Tu sens la banane ?
Un petit peu, oui. Mmh. C'est un petit peu somatique, mais...
Peut-être, hein. C'est toujours dur.
Et toi, tu vas sentir le Cuberdon, c'est ça ?
Non, j'ai toujours pas senti le Cuberdon.
Bon.
Surtout que je mange vraiment pas assez de Cuberdon pour exactement me souvenir du goût du Cuberdon.
C'est dommage.
Est-ce que le Cuberdon, c'est spécifiquement...
C'est belge.
C'est belge, hein ?
C'est belge, ouais. Mais il me semble.
Enfin, flamand,
c'est,
même.
C'est même flamand.
C'est et... ouais, enfin, à Gantois, on... Il y a même des vendeurs qui se battent pour genre dire lequel est le plus vrai des fabricants de Cuperdon.
Ah bon ?
Ouais, on en vient parfois aux mains.
Eh bien.
Mais les Gantois ont toujours été très turbulents, comme on atteste l'histoire de... Voilà, comme les Brugeois d'ailleurs. Hein, voilà,
ouais. Il faut savoir, oui, que les Brugeois et les Gantois se disputent la paternité du Cuperdon.
Ah, donc, ok, d'accord.
C'est marrant comme l'info t'est revenue tout d'un coup.
C'est très fort.
Venez de curé.
En tout cas, je tiens à dire qu'on voit qu'on a notre deuxième bière dans le podcast.
Bah, tu trouves.
Tu trouves c'est que plus ça fluide.
Voilà. Oui, le volume en atteste.
Ah oui, on est désolé pour ça.
Voilà.
La pierre, le sable et le vent, la nacre d'un coquillage, l'eau, la pierre, le sable et le vent. Et Bruges prise au-dedans.
Après cette petite dégustation, nous pouvons donc passer à ce nouveau point de notre podcast, à savoir donc la présence de Bruges au sein de la Hanse. Et donc, comme on l'a dit juste avant, les marchands allemands vont arriver en grand nombre, mais ce ne seront pas les seuls. Il y a énormément de denrées qui vont transiter par Bruges. D'ailleurs, il va y avoir... plusieurs halles qui vont être construites. Il y a notamment une halle qui va être réalisée sur l'eau. Comme ça, ils vont pouvoir décharger toutes les cargaisons en toute tranquillité.
Juste pour parler de l'architecture du bâtiment, c'est vraiment un bâtiment magnifique, très très grand, avec un canal qui donne sous l'eau, où en effet, les bateaux peuvent vraiment débarquer au sein même de la halle et débarquent leurs marchandises directement dans la halle. Et dans cette halle, il y a bien sûr tout des petits comptoirs commerciaux, des marchands qui ont leurs échoppes. Donc voilà, c'est vraiment une merveille architecturale.
Alors, dans son âge d'or, il faut savoir que le commerce international donnait du travail pour un quart des habitants de Bruges, que toute l'industrie drapière donnait du travail pour un autre quart aussi de la ville. Donc c'était vraiment ça prenait une place terrible au sein de la ville.
Et Bruges, juste pour donner une idée, donc c'est dans les 40 000 habitants. Moi, à ce moment-là, c'est quand même la quatrième ville la plus importante d'Europe derrière Gand, et bien sûr Paris et Londres qui sont d'office les deux plus grandes villes.
Il faut dire, quand même, pendant un moment, Londres, Bruges, Paris, c'était quand même pratiquement la même population. Ça a été, c'est fou de se dire que maintenant Bruges a pu être aussi puissante que Londres ou Paris, enfin peut-être pas puissante, mais en tout cas avoir autant d'habitants, quoi, ouais. Autant d'importance, ouais. Et qu'on ait pu en parler autant à l'époque, vu que maintenant c'est plutôt une petite ville touristique, ma foi, fort jolie, mais qui semble avoir perdu...
C'est provincial, finalement.
Voilà, tout à fait. Alors, tous ces marchands, finalement, séjournaient dans des auberges. Il faut savoir qu'il y avait beaucoup d'activités qui se déroulaient autour de ces auberges. Il y avait des prêteurs, des marchands d'argent. Et justement... Il y avait une famille qui s'appelait la famille Beurs. Et donc, on va appeler le lieu où, justement, il y avait tous ces marchands, tous ces prêteurs, Beurs. Donc, on aura l'hôtel des Beurs, l'hôtel de la Bourse, plus tard en français. Donc, vraiment, tout vient même de...
La Bourse de Bruges.
Voilà, c'est fou, hein ?
Merci, Bruges.
Ouais, c'est peut-être pas si bien que ça. J'ai parlé du commerce au tout début en Méditerranée. Alors, il faut savoir que pour les Italiens, pour les Vénitiens et toutes les cités-États qui pouvaient se trouver dans cette région-là, c'était du commerce de luxe qui était très développé, alors que dans nos régions, on a plutôt tendance à parler d'un commerce de matières premières qui venaient de l'Est, donc vraiment de la Russie, de la Scandinavie. On avait du poisson fumé, on avait du bois, on avait de l'ambre.
Et surtout des fourrures.
Les fourrures. Beaucoup de fourrures. Tout à fait. Le goudron aussi.
Le goudron. Effectivement, de la cire aussi.
Voilà, en grande quantité. Tandis que de l'autre côté, nous provenait d'Espagne, du Portugal, de la France, le vin, l'huile, le drap, après lui transiter partout hein, à partir de Bruges. Mais voilà, il y avait vraiment un échange qui était très intéressant à l'époque.
Plus des connexions finalement avec tout le commerce de la route de la soie, les épices, la soie, l'anmuscade qu'on a retrouvé jusque dans des villes qu'on dirait perdues actuellement dans la Baltique, mais qui était très riche à l'époque finalement en faisant partie de la Hanse. On a aussi retrouvé, bon, on s'éloigne de Bruges, mais des huîtres de Bordeaux dans certaines villes des actuels pays baltes. On se demande si c'était toujours aussi fraîche en arrivant sur place, mais en tout cas c'était consommé par les riches bourgeois de la zone, avec du saumon finalement des pays scandinaves, et également toute une série d'objets de pèlerinage aussi qui étaient diffusés le long de ces routes, qui concourait finalement à diffuser une certaine iconographie chrétienne et une certaine bonne manière. Et à l'inverse des bonnes manières, on diffusait aussi certains objets plus ludiques, comme par exemple retrouvé dans une ville de l'actuelle Pologne, me semble, un grand phallus en verre venant des Pays-Bas ou de l'Allemagne, c'est pas trop. Et les archéologues se demandent encore la fonction exacte de l'objet, si ça servait à servir du liquide ou à d'autres fonctions plus récréatives.
C'est-à-dire
d'autres fonctions plus récréatives.
Tout ça. Hein.
Merci. Excusez-moi.
Je laisse l'imagination.
Je pose des questions qui peuvent sembler parfois un peu futiles, mais
t'as raison, t'as raison.
J'ai besoin de savoir.
Tout à fait. Et d'ailleurs, pour revenir à ces choses ludiques, non, pardon, ces choses très sérieuses, c'est aussi intéressant de rappeler que la Hanse était liée au chevalier teutonique. Hein, qui est quand même un ordre chrétien assez important. Voilà, on parle d'objets phalliques, parlons maintenant de chrétienté. La Hanse est liée en effet aussi à la diffusion du message chrétien, et tu l'as dit, aux objets de pèlerinage. Les chevaliers teutoniques, ils sont nés via les croisades. Donc voilà, ça explique clairement aussi un peu cette diffusion d'objets chrétiens.
Donc au fur et à mesure, finalement, l'industrie drapière commence à décliner avec une série de conflits, notamment liés à certains conflits qui existent avec les autorités bourguignonnes, notamment au cours du XVe siècle. Mais la ville de Bruges ne va pas pour autant décliner en termes de commerce. Donc déjà, son statut d'intermédiaire est assez important, avec le nombre de marchands qui habitent ou qui résident à l'année pour assurer les échanges entre différentes parties du réseau, mais également avec un développement de l'art et de l'industrie du luxe. Donc la production d'une série de peintures, de livres d'heures, de sculptures, pour toute cette bourgeoisie qui s'enrichit dans la zone. Donc on voit d'ailleurs dans les livres de comptes des différentes corporations que loin d'avoir une baisse qui aurait été liée au déclin progressif de la ville, avec finalement cette perte d'influence, que les corporations continuent à grossir tout au long du XVe siècle, au point même que certaines corporations, nouvelles corporations se créent. Donc par exemple, les enlumineurs, qui ont décidé à un moment de se séparer des peintres, considérant ne pas avoir finalement toute la considération qu'ils pensaient avoir, et donc créer une nouvelle corporation dans la moitié du XVe siècle, corporation qui va très bien fonctionner pour le reste du siècle. C'est seulement à partir du moment, fin du XVe, début du XVIe siècle, quand Maximilien de Habsbourg aura finalement cette politique assez répressive sur Bruges, que finalement les marchands vont partir, et donc que l'art va commencer à décliner, que les artistes vont suivre les marchands pour se retrouver à Anvers et d'autres villes plus puissantes de Flandre.
C'est aussi intéressant de rappeler que même si on a eu un relativement lent déclin du commerce dans Bruges, que la ville gardait son importance grâce aux Bourguignons notamment. On en a parlé dans notre premier podcast sur Marie de Bourgogne avec le Prinsenhof, qui est maintenant devenu un hôtel, rappelez-vous. Si jamais vous n'avez pas encore écouté notre premier podcast sur Marie de Bourgogne, c'est le moment de l'écouter et de boire une duchesse de Bourgogne.
Et de liker.
Et de liker,
et de mettre des étoiles.
Voilà, de mettre des étoiles. Mais donc, ce Prinsenhof, donc la cour de Bourgogne est une cour itinérante avec plusieurs palais. Et donc, il y a ce palais à Bruges, le Prinsenhof, qui a connu des moments importants comme la mort de Philippe le Bon, la mort de la duchesse de Bourgogne ou encore la création de l'ordre de la Toison d'Or.
On vous parle de la Hanse, du développement économique, tout ça c'est cool. C'est vrai qu'il faut imaginer une ville qui est bouillonnante d'activités, avec toutes les nationalités qui vont être présentes. Alors elles auront chacune leur spécificité. Donc là, on vous parle des Allemands. Les Allemands, c'est un très gros groupe. Les Italiens viennent plutôt par petits groupes qui représentent à chaque fois une cité différente. Donc ça se côtoie, ça discute, ça se retrouve dans les ruelles, dans les cafés avoisinants. Il y a énormément de tractations qui sont faites. Mais en même temps, la Hanse, ça va pas toujours être tendre vis-à-vis des Brugeois. Arne en a parlé au tout début, la ville va connaître 3 embargos d'ampleur.
Tout à fait. Donc on l'a dit tantôt, hein, la Hanse, c'est un pouvoir politique, un pouvoir commercial bien sûr, mais aussi un pouvoir politique et qui impose son monopole, et elle le fera donc 3 fois à Bruges. La première fois, je pense, au XIIIe siècle, quelque part.
En 1280.
En 1280. Voilà, c'est un embargo qui va durer 2 ans, 1280-1282. Et les Brugeois vont céder. Hein, ça, voilà, Mathias l'a dit plusieurs fois. Que chaque embargo que fait la Hanse, la ville cède à tous les coups.
Ensuite, on va avoir ce deuxième embargo. Donc là, on est plutôt à la moitié du 14e. Alors le 14e, c'est un peu le début de l'âge d'or de Bruges. Là, vraiment, ça va commencer à grimper. Du coup, c'est vraiment un coup dur, mais à chaque fois, les privilèges vont être restaurés à la Hanse. Et alors, l'embargo de 1388, lui, va être un petit peu plus compliqué à gérer, parce que là, il y aura beaucoup de personnes qui vont rentrer dans le jeu, mais finalement, bah, Bruges va se plier aux conditions de la Hanse, encore une fois. Par contre, par la suite, la Hanse va avoir beaucoup plus de mal à imposer ses conditions.
Ouais, la Hanse, bah, elle va décliner, tout doucement, bah, au profit notamment, entre autres, des compagnies des Indes. Notre deuxième podcast, on vous invite également à l'écouter.
Et à liker et à mettre des étoiles. Mais voilà, c'est vrai que c'est très intéressant. On peut vraiment marquer la fin de ce commerce, on va dire, intérieur, avec vraiment l'apparition de ces compagnies, avec l'apport d'épices aussi, de tissus qui vont être complètement différents, qui vont venir des Indes. Et du coup, ce qui va se passer, bah, c'est que le comptoir principal, ça ne va plus être Bruges, mais ça va devenir Anvers. Et ça, ce n'est pas la première fois, hein, que ça va arriver. Donc, en fait, à chaque fois, la technique de la Hanse, c'est de dire « Ah bah voilà, ce comptoir-là, il est chiant, claque, on va le fermer, on va en ouvrir un autre. » Alors, ça va durer pendant 2 ans, 3 ans. Bah là, à un moment donné, le comptoir va être complètement transféré à Anvers. Et là, ça va être le début de la fin pour cette belle petite ville qui est Bruges.
Ouais, ce qui n'empêche que la Hanse a quand même laissé des beaux bâtiments. À Bruges, on en parlait, au fait, dans la plupart des comptoirs, enfin dans la plupart, au fait, la Hanse n'a vraiment que 4 comptoirs principaux, c'est Novgorod en Russie, Londres, Bergen en Norvège et Bruges. Donc voilà, ça c'est vraiment les 4 grands comptoirs de la Ligue. Alors normalement, ils créent vraiment leur propre maison, sauf à Bruges, où au fait, ils se réunissent dans l'église des Carmélites. D'ailleurs, c'est l'occasion d'ouvrir une triple Carmélite.
Et non,
c'est con, on n'en a pas acheté ce soir, mais c'est pas grave.
On prendrait une autre fois.
C'est à Beinbev.
De toute façon, c'est à Beinbev maintenant, et en plus, on a déjà bu une Quack, qui est la même brasserie. Mais bref, mais très tardivement, donc, les Allemands vont ouvrir une Osterlinghaus, hein, c'est les Osterling, les gens de l'Est, une Osterlinghaus, très tardivement, vers 1457 ou 78, dans ces eaux-là, mais ils vont clairement donc, quand même investir l'endroit juste avant de déménager à Anvers.
D'ailleurs, les archives se sont trouvées à Anvers pendant un petit temps, et maintenant elles se trouvent à Cologne. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter ?
Ouais. Au fait, la Hanse, elle existe encore plus ou moins aujourd'hui.
Bien vu.
Ouais. Donc, ça enfin bon, il y a plusieurs traces qui subsistent. Alors, la première, c'est limite la plus anecdotique, mais c'est juste pour dire que les villes hanséatiques restent très très fières de leur origine hanséatique. Si jamais vous allez en Allemagne et que vous passez sur l'autoroute, vous allez sûrement voir beaucoup de plaques de voitures qui commencent par un H, genre HH ou HL. Et ça, en fait, c'est pour dire que c'est une ville hanséatique. Donc genre HH, c'est les plaques pour Hambourg, c'est Hansenstadt Hambourg, ou HL Hansenstadt Lübeck. Donc voilà, ça reste au fait aujourd'hui encore des villes hanséatiques. Et alors la deuxième chose, c'est qu'il y a en effet une espèce de Hanse qui existe, je ne connais pas du tout son rôle, mais qui a été lancé par je ne sais plus quelle ville, en tout cas voilà, de la mer du Nord et de la Baltique, il y a encore des espèces d'assemblées de Hanse qui sont certainement plus anecdotiques, c'est plus des monopoles de commerce, hein, vu que maintenant les monopoles de commerce sont détenus par les multinationales et plus par les États. Mais voilà, il y a encore quand même des assemblées hanséatiques qui existent et encore des traces qui en restent. D'ailleurs, si vous voulez encore trouver des traces de la Hanse à Bruges, malheureusement, cette Oosterlinger House, elle a plus ou moins disparu. Je pense qu'il reste genre une petite façade qui n'a plus rien à voir avec le magnifique bâtiment, avec une superbe tour que c'était à l'époque. Mais par contre, il y a encore une Oosterlinger Plain. Donc voilà, si jamais vous allez à Bruges, vous allez à la Oosterlinger Plain et là, vous retrouverez dans l'endroit qui jadis hébergeait les Allemands de la Hanse.
C'est fou de voir à quel point Bruges ait pu être un endroit aussi important et que toute cette importance ait pu être déterminée en fait simplement par le Zwin, juste par un accès à la mer. Et comment la fermeture d'un accès comme celui-là peut conditionner le développement de toute une ville et, je vais pas dire sa décrépitude, mais sa déchéance.
Et même comment une tempête, qui a probablement tué beaucoup de gens, a vraiment pu changer, ouais, voilà, tout le lieu a changé. Donc voilà, c'est aussi, ça montre vraiment les hasards de l'histoire qui changent, ouais, qui font vraiment le jour et la nuit.
Voilà, et donc finalement Bruges, bah voilà, le Zwin va sans sabler, sans liser, qu'est-ce que
sans sabler
au fur et à mesure. Alors on va essayer de draguer, hein, plusieurs fois le Zwin, mais bon, ce sera sans succès. Un petit peu comme ce qui peut arriver avec le Mont-Saint-Michel, si vous voulez une comparaison avec la France. Et donc, Bruges va finir par perdre un peu de sa superbe. Et en même temps, la Hanse également, bah, elle va faire face, comme on l'a dit tout à l'heure, aux Compagnies des Indes, hein, qui vont connaître un développement extraordinaire. L'Angleterre va devenir vraiment pas un ennemi, mais un concurrent de poids pour la Hanse. Et en même temps, on va avoir tout le développement avec Luther, justement, de la réforme, et puis ensuite de la contre-réforme. Alors pour la Hanse, c'est pas trop compliqué, parce que dans l'intérieur des terres, ils vont être fidèles à la réforme, finalement. Mais il va quand même avoir une rupture entre les différents pays, et donc le commerce va se retrouver un petit peu en difficulté. Et donc cette belle unité, bah, finalement, va être complètement divisée dans ce tournant de l'histoire. Bon, finalement, je dis tournant, mais chaque époque est un petit peu un tournant à un moment donné.
Oui, et les centres d'une époque deviennent les provinces de l'autre. Et
voilà, tout évolue. On ne peut jamais dire si c'est une bonne chose ou pas. C'est toujours au profit de quelque chose d'autre. Mais en tout cas, c'est ainsi que se termine l'histoire de Bruges en tant que comptoir principal de la Hanse.
Comptoir,
pardon.
Voilà, un mot, juste pour l'anecdote, qui existe encore aujourd'hui en néerlandais. Kantoor signifiant bureau. Donc voilà, c'est aussi apparemment l'origine du mot kantoor en néerlandais.
Et c'est ainsi aussi que se termine notre podcast. En tout cas, on tenait à vous remercier parce que maintenant le podcast est en ligne. Déjà, on remarque que des gens l'écoutent, ce qui est déjà assez impressionnant. On vous remercie de consacrer un peu de temps à nous écouter déblatérer à chaque fois sur un sujet, à nous entendre boire nos verres et nos chopes comme ça pendant à peu près une heure. On prend bien en considération les petites remarques qu'on reçoit au fur et à mesure, donc n'hésitez surtout pas à nous envoyer un mail pour nous dire ce qui peut poser problème, pour nous dire comment est-ce qu'on peut s'améliorer également, mais surtout n'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur iTunes, à vous abonner sur Spotify, à en parler autour de vous. Ça, c'est toujours super sympa. On essaye d'apprendre 2-3 trucs. On va essayer de développer Instagram, n'est-ce pas ?
Tout à fait, Mathias, tout à fait.
Voilà, Arne a fait un gros pouce en l'air, ce qui est très radiophonique. Ouais. J'aimerais dire qu'on n'est pas du tout encore habitué au fait de vous parler.
Je fais un like, hein, c'est normal.
C'est vrai, c'était un très beau like.
Voilà.
On espère revoir Nico très souvent.
Merci Mathias, mais c'est avec plaisir.
Et en tout cas, c'était un plaisir de te recevoir, mais en même temps, on est chez toi.
Oui, de nouveau à Skarbek, sans les avions.
De nouveau à Skarbek, sans les avions. Il faut avouer que c'était particulièrement chiant.
C'est clair. Mais ça m'a passé ce soir-là.
Voilà, ici, bon, on commence à prendre nos marques,
à
trouver un peu un petit rythme de croisière également. Donc voilà, un tout grand merci à vous. Encore une fois, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, où que vous soyez, quel que soit le moment où vous nous écoutiez.
Et n'oubliez pas, boire ou conduire, il faut choisir.
Par contre, nous écouter, il ne faut pas.
Il ne faut pas, exactement.
C'est ça.
Alors, vous pouvez les amis, nous écouter en conduisant, il n'y a pas de problème.
Tout à fait.
Ou en buvant.
On vous fait des gros bisous. On vous dit à très bientôt. Encore un grand merci. Salut tout le monde. Salut les gars.
Ciao.